Culture Club, l'invité.
Une romancière qui s'intéresse de près aux rapports névrotiques que nous entretenons avec nos proches, mais attention, en évitant le pathos et la mièvrerie pleurnicharde, bien au contraire, chez elle, ça gratte et ça finit par exploser. Le nouveau livre de cette Belge rousse et incandescente s'intitule « Décidément, je t'assassine ». Bonjour Corinne Hooks.
Bonjour Laurent.
Vous allez bien ?
Je vais bien, je suis heureuse d'être là, je vous remercie.
Alors « Décidément, je t'assassine », c'est donc ce roman qui paraît aux Impressions Nouvelles. Il y a eu auparavant Le Grand Menu et puis Ma robe n'est pas froissée. On a coutume, je dirais, de considérer que c'est une trilogie. Vous le faites aussi ?
Non, moi je ne le fais pas, mais j'ai remarqué que certains lecteurs cherchent des liens entre ces trois livres. Le Grand Menu est paru en 2001. À l'Olivier à l'époque. Mmh. Il est repris cette année, il était épuisé à l'Olivier et il est repris, réédité par les Impressions Nouvelles. Et puis il y a eu « Ma robe n'est pas froissée » paru en 2008 et maintenant « Décidément, je t'assassine ». C'est vrai qu'on peut retrouver un personnage de mère, ouais, assez récurrent dans les trois livres. C'est chaque fois une femme forte, dure, autoritaire, peu encline à l'émotion et à la relation à l'autre et à sa fille notamment. Mais je les ai mises en scène dans des situations, mmh, et dans des histoires très différentes.
En tout cas, c'est les rapports, les complexes rapports qu'au fond les individus entretiennent les uns avec les autres. Alors il y a, encore une fois, vous l'avez dit, cette mère très très forte, hein, ici au centre, décidément, je t'assassine. Une mère qui est l'occasion de faire le portrait d'une femme forte et combattante surtout,
oui,
mais qui va perdre le dernier combat, parce qu'au fond, personne ne le remporte, ce dernier combat.
Oui, ce dernier combat, personne ne le remporte, mais il a été pour la narratrice l'occasion d'espérer, d'attendre que quelque chose se dise. En fait, le livre, au début du livre, on voit la narratrice accompagner sa mère à l'hôpital. Mmh. Selon ses dires, cette mère n'est pas en danger. Elle ne se sent pas très très malade, elle est un peu souffrante, mais on lui découvre une grosseur, un cancer, et elle va mourir en quelques semaines. Et ces quelques semaines seront pour la narratrice l'occasion de vivre quelque chose qu'elle n'a pas vécu avec sa mère, c'est-à-dire de la voir chaque jour. La maladie met d'une certaine façon, cette mère à sa portée. Mmh. Elle peut aller chaque jour la voir et tendre des perches pour qu'une relation puisse peut-être s'instaurer, mais c'est vain. La mère meurt après quelques semaines sans que cette parole d'amour ait été réellement échangée.
Petite bouffée d'espoir donc pour qu'une une vraie relation s'installe, une relation profonde, je dirais, c'est quand la mère dit « on va se battre ».
Voilà,
et
oui,
ce « on
oui »,
c'est très neuf dans sa bouche.
Oui, ce « on » bouleverse la narratrice parce que cette mère qui est assez réfractaire à la relation, qui ne se livre pas, là associe sa fille dans ce combat et cette solidarité nouvelle incite la fille aussi à revenir chaque jour, à attendre, renouvelle l'attente de la narratrice. Mais finalement, elle devra faire son deuil de quelque chose qui n'a pas été, d'une parole qui n'a pas été dite, d'un manque. Et elle le fera dans la deuxième partie du roman.
Où elle va devoir faire l'inventaire de la vie de sa mère, au fond, hein, de tous ses biens, oui, mobiliers, immobiliers, mais vraiment, au fond, repartir sur les traces de cette mère.
C'est-à-dire qu'elle va se retrouver propriétaire de la maison de sa mère, elle va reprendre possession de cette maison, des objets que cette maison contient, et elle va les explorer, elle va les trier, elle va chercher à travers ces objets quelque chose qui pourrait être une trace de relation. Elle va se rendre compte que sa mère, qui a tant pu construire sur un plan matériel, n'a pas investi dans la relation, n'a pas pu construire. Sa mère a tout décidé, tout choisi, chaque objet de la maison, tout est l'objet d'une volonté, et d'un féroce appétit de vivre. Mmh. Et cet appétit, elle ne l'a pas eu pour la relation à sa fille, pour l'amour à sa fille. Et donc la fille va faire le choix à ce moment-là de quitter tout cela.
Mais un féroce appétit de vivre, qu'on pourrait dire peut-être un petit peu égoïste de la part de cette mère, parce qu'effectivement, cette relation avec sa fille est ratée, hein, pour dire les choses simplement, mais au fond, est-ce que cette mère est simplement quelqu'un qui vivait dans un monde où elle n'avait pas le choix, cette fille? Elle ne la voulait pas, cet enfant, elle ne le voulait pas.
Cela n'est pas dit dans le livre, je ne pense pas. Je ne l'ai pas dit, moi je travaille beaucoup en retrait, dans le non-dit, dans le silence, dans l'ellipse, et donc je ne sais pas si la mère, je ne sais pas quelle est la réalité de la mère, je peux donner celle de la narratrice, puisque le point de vue du récit est celui de la narratrice. Mmh. Donc dans le ressenti de la narratrice, sa mère ne l'aurait peut-être pas souhaité. Mais oui, elle voit d'ailleurs une photo de sa mère sous laquelle il était inscrit un polichinelle dans le tiroir. Elle dit « Le polichinelle, c'est moi ». Mais une mère referme-t-elle le tiroir? C'est le point de vue de la narratrice. Je ne peux pas aller plus loin dans l'analyse de ce qui se passe chez la mère.
Alors c'est aussi, ce décidément je t'assassine, l'occasion de nous promener, enfin si je peux dire, en tout cas de nous familiariser plus exactement, avec l'univers de l'hôpital aussi. Et c'est les décisions que l'on doit prendre très rapidement, souvent à l'hôpital, notamment cette mère va mourir, les infirmières demandent qu'est-ce qu'on fait, et au fond, ni la fille ni la mère ne comprennent de quoi il s'agit.
Mais on n'est pas préparé à ce monde, à ce côté d'efficacité nécessaire. La mère se trouve tout à coup aux soins intensifs. Il y a des échéances, il y a des choix. Elle décède très vite, mais il faut aussi très vite l'évacuer parce que c'est le week-end et qu'on ne peut pas faire venir les pompes funèbres le week-end. La fille dispose d'un quart d'heure pour faire ses adieux à la dépouille de sa mère. Et puis après, la dépouille partira à la morgue. Donc c'est très très violent. Cette violence de l'hôpital, j'ai voulu en rendre compte.
Par exemple, quand vous dites les morts ne sont pas immuables, ils se dégradent, ils s'avarient. C'est très très dur ça, effectivement, Corinne Hooks. Il y a, en même temps, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de pathos. Hein. On n'est pas là pour pleurnicher. Vous décrivez et vous cherchez, j'imagine, des mots à mettre sur des émotions.
C'est-à-dire que je cherche à montrer de la manière la plus froide peut-être possible ce qui est froid. En l'occurrence, cet hôpital a un côté glacé, glaçant. Mmh. Et donc, je ne me livre pas à l'émotion à ce moment-là. J'essaie de rester dans l'observation.
Mais c'est peut-être justement à travers cette espèce de froideur apparente que l'émotion la plus juste transparaît. Décidément, je t'assassine aux impressions nouvelles. Au fond, cette phrase qui est très coup de poing comme ça, hein, du titre du roman, Corinne Hooks, elle arrive assez simplement dans le roman. Hein. C'est au fond qu'il ne faut pas apporter trop de fleurs, par exemple, dans une chambre de malade, parce que c'est un peu dérangeant.
Oui. Dans le roman, elle est mise là dans un contexte ironique. Ouais. Et en fait, la narratrice se parle à elle-même en pensant à sa mère. Pensant bien faire, elle apporte des fleurs. Les fleurs sont trop parfumées, la mère n'en veut pas. Le lendemain, elle lui apporte un petit pot d'hortensia, relativement inodore. Mais il y a de la terre, et de la terre, c'est dangereux pour le tétanos dans un hôpital. Un autre jour, elle lui apporte le courrier, mais il y a des agrafes qui tiennent les revues. Et la mère estime que des agrafes peuvent être dangereuses. Donc la fille doit jeter les agrafes très loin dans la poubelle, etc. Bon, la fille se dit, mais décidément, je t'assassine. Elle se le dit, mais vraiment... perplexe quant à ce qu'il faut faire pour convenir, toujours. Dans le titre, je pense que l'expression n'est pas mise là ironiquement, d'après moi, au lecteur de juger, évidemment. Il s'agit de l'assassinat, peut-être pas vraiment de sa mère, mais de son attente de sa mère, de ce manque d'elle. La narratrice décide de survivre à cette attente, à ce manque, de faire ce deuil de ce qui n'a pas été, de vendre la maison, d'évacuer les objets, de jeter tout ça et de se libérer. Donc elle va vers une renaissance et donc c'est l'assassinat de sa propre attente, de son illusion en fait.
D'ailleurs, c'est pas un suspense, donc je peux dire les derniers mots.
Bien sûr.
Je marche.
Je marche. Mmh. Oui.
Ça veut dire
oui.
qu'il y a quelque chose après.
Ah oui. Oui, oui. La dernière page, c'est une toute petite. C'est la description d'une photo que la narratrice trouve parmi les photos et les albums de sa mère. Et elle se voit à un an. Elle fait ses premiers pas. Elle s'éloigne de sa mère qui la tient. Et elle s'arrache au bras de sa mère. Elle fait ses premiers pas, les bras levés pour trouver son aplomb. Et elle marche. Donc c'est de l'ordre de la décision de faire ce premier pas et pour elle aussi d'évacuer son attente.
Et c'est en ça, évidemment, que ce roman, Corinne Hooks, c'est ce que vous écrivez en général, est de portée universelle, c'est-à-dire c'est une espèce d'émancipation, de prise de liberté, c'est dire « je », enfin, je pense qu'on en est beaucoup à chercher ça.
Je crois que ça nous concerne tous un peu, ou en tout cas beaucoup d'entre nous. Et oui, je pense qu'en touchant à cette histoire particulière, mais que tout le monde un jour peut connaître, bien sûr, c'est la mort, c'est le deuil, c'est la nécessité de faire le choix de garder, d'évacuer, de renoncer à quelque chose. Je crois qu'on est tous un jour ou l'autre confrontés à ça et qu'on tente d'y répondre selon ce qu'on est, selon ce qu'on peut vivre à ce moment-là.
Corinne Hooks, historienne de l'art, archéologue, chercheuse, documentaliste, archéologue, ça m'a frappé évidemment, parce qu'on peut se dire aussi que c'est vraiment de l'archéologie du sentiment.
Oui, c'est vrai.
Fait, hein. C'est aller chercher oui. le sens très très loin parfois, très profondément.
En fait, oui, vous avez raison. Je n'avais pas fait le rapprochement avec l'archéologie, mais c'est vrai que c'est de l'archéologie familiale, parce que bien sûr, je vais chercher pour travailler, c'est une fiction, mais je vais chercher dans mes propres émotions, dans mon histoire, je mets en scène certaines choses que j'ai connues, d'autres que d'autres personnes ont connues, mais je remonte dans le passé. Et donc, c'est vrai que c'est de l'archéologie, en quelque sorte, oui.
Et il faut dégager, il faut nettoyer, oui. On vous imagine avec votre petite brosse en train d'enlever la poussière très très délicatement autour de ce que vous trouvez.
Oui,
c'est votre travail aussi, il y a de la maniaquerie là-dedans, il y a en tout cas une volonté d'épurer au maximum.
Ah oui, il y a un travail énorme de recherche sur les mots et sur la phrase et sur la construction, et toujours un travail qui va dans le sens du retrait. Donc c'est vrai que je passe les choses au tamis, comme l'archéologue.
Parce que quand il y a trop de choses, au fond, peut-être qu'on cache l'essentiel.
Peut-être, moi j'essaie de dire l'essentiel dans le silence qu'il y a entre les mots. Donc c'est vrai que je ne sais pas si je le cache, mais je ne le dis pas non plus. Certains mots y conduisent et conduisent à l'émotion qui, elle, se passe dans le blanc, dans le silence.
J'aime beaucoup ce que Sophie Creuse, journaliste à l'Écho à l'époque, disait de vous. Corinne Hooks écrit sur le ton sage de la gamine en jupe écossaise, soquette et souliers vernis, qui aurait caché sous ses plis un bâton de dynamite. Je trouve ça assez juste. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Elle avait écrit ça dans l'Écho à propos du grand menu, effectivement. Mmh. Et elle avait aussi ajouté « Tex Avery débarque chez Folcoche » et j'avais adoré cette façon de voir. J'aime beaucoup le regard de Sophie Creuse sur mon écriture.
Vous écrivez pour, comme Orlan tout à l'heure, hein, plasticienne, pour provoquer, pour faire réagir, pour mettre mal à l'aise parfois ?
J'écris pour explorer ma propre émotion, a priori. Et puis, j'en fais un livre. Et à ce moment-là, au lecteur de sentir s'il se sent mal à l'aise, réconforté, conduit ailleurs. Je ne sais pas. Là ça ne m'appartient plus. L'émotion qui suit ne m'appartient plus. Mais moi, je travaille pour fréquenter, explorer, chercher quelque chose que je n'ai toujours pas trouvé.
Il y a des images très, très fortes. Hein. Par exemple, la narratrice imagine les cendres de sa mère répandues dans la mer, M-E-R, et allant nager au milieu de ces cendres. Et ce sera enfin une façon de se rapprocher véritablement de cette mer. Ça, quand même, vous vous êtes dit, je peux dire ça va peut-être, c'est un peu écœurant même parfois.
Je ne me suis pas posé la question. Je l'ai dit parce que vraiment, c'était comme ça que ça m'apparaissait. C'était un ressenti profond. C'est vrai que quand le roman est terminé, il y a toujours le moment de le lâcher et où on se dit j'ose ou je n'ose pas, vais-je livrer cela ? Parce qu'il y a toujours beaucoup d'intime dans l'émotion que l'on donne. Et donc, voilà, c'est une mise en danger, comme on dit, mais ce n'est qu'à ce prix-là aussi qu'il y a la vraie rencontre avec ses lecteurs et avec l'autre.
Vous, il y avait la Foire du Livre là, récemment à Bruxelles, vous allez, je dirais, avec plaisir à la rencontre des lecteurs.
Ah oui, avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de joie. Et j'ai eu quelques très très belles rencontres dans le contexte de la Foire du Livre.
Le danger, c'est pas qu'on vous prenne un peu pour une thérapeute, justement. J'imagine peut-être on vient vous demander des conseils, comment je peux m'en tirer avec ma mère, parce que moi aussi, mes rapports ne sont pas au beau fixe, ça n'arrive pas ou
non, ça ne m'arrive pas.
Non.
Ça ne m'arrive pas. Jusqu'à présent, ça n'est pas arrivé et je ne pense pas que je prendrai cette position.
Alors, il y a de la poésie aussi hein, dans le travail de Corinne Hooks, des recueils de poèmes. La poésie, c'est un autre rythme, un autre temps ou au fond, ça fait partie d'un tout ?
Pour moi, ça fait partie d'un tout. Selon le sujet, cela peut prendre une forme poétique parce que non, je peux travailler à l'un puis à l'autre. Ça fait partie d'un tout.
Alors, je reviens au portrait de cette mère hein, qui, par exemple, rassemble les chats et les chattes et fait opérer les chats. Hein, et alors, elle dit « plus d'eau verte, c'est de la liberté
».
C'est aussi ça une forme est-ce que c'est une forme d'acte militant, là, de l'écrivain que vous êtes, de témoigner pour les femmes, de prendre la parole pour les femmes ?
Je n'écris pas pour cela, mais je conçois bien que ce que je fais... prend position, existe et peut être repris dans ce sens-là. Mais a priori, moi j'ai décrit mon personnage et je l'ai poussé jusqu'au bout en expliquant qu'effectivement elle veut aider les chattes errantes de son quartier en les conduisant chez Chats Libres. C'est un organisme qui permet d'opérer les chattes de manière qu'elles ne se reproduisent pas. Et donc, je conclus en disant que la liberté pour la mère, c'est donc de ne plus avoir d'ovaires. Mais c'est plutôt une façon de caricaturer la mère qu'une revendication féminine à ce moment-là.
Corinne Hoeks, féministe, ça vous dérangerait ? On est hors propos ?
On est hors propos, mais ça ne me dérange pas du tout, je le revendique. Mais ce n'est pas pour moi dans le propos du livre. Ce sont deux choses très différentes, mon travail littéraire et des options philosophiques ou sociales. Mais ça ne me dérange pas. Pas de relation, je n'ai pas posé ce livre comme un acte féministe.
Celui-ci s'appelle « Décidément, je t'assassine ». Il est paru aux Impressions Nouvelles, tout comme les deux premiers, la réédition du Grand Menu aux Impressions Nouvelles. Et puis « Ma robe n'est pas froissée ». Merci beaucoup, Corinne Hoeks.
C'est moi qui vous remercie.
À bientôt.
Retrouvez Culture Club tous les jours de la semaine entre midi et 13h.
La première.